Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité adopte une résolution sur l'enlèvement des enfants. L'UNICEF dénonce les brutalités inqualifiables à l'encontre des enfants au Soudan du Sud. L'ONU se félicite de l'encyclique papale sur le climat. En dossier, distribution de kits d'urgence dans l'état d'unité au Soudan du Sud. Enfin, nous reviendrons sur le sort des 60 millions de personnes déracinées que compte notre planète. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité ce matin une résolution qui ajoute les enlèvements d'enfants à la liste des violations qui déclenchent l'inclusion d'une partie dans les annexes du rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Auparavant, les 15 avaient entendu le secrétaire général Ban Ki-moon souligner que l'année 2014 était une année sans précédent au niveau des défis pour les enfants et les conflits armés qui affectent quelque 230 millions d'enfants sur notre planète. La représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerougui, souhaitait surtout appeler les membres à parler d'une même voix en faveur des enfants.
Restez unis sur la question des enfants. Même si vous êtes divisés politiquement sur cette question-là, parlez d'une même voix, envoyez un message fort pour les victimes, pour leur dire on est avec vous, on ne vous oublie pas, mais aussi pour les violateurs, pour leur dire on n'est pas d'accord avec ce que vous faites et vous répondrez un jour de vos actes.
Comme pour illustrer tristement le débat au Conseil de sécurité ce matin, l'UNICEF dénonce une brutalité inqualifiable au Soudan du Sud dans l'état de l'unité. Loin des caméras et des médias, 129 enfants ont été sauvagement tués et 13 000 seraient forcés à participer au combat. Alpha Diallo.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance n'a rarement vu autant de brutalité contre les enfants au Soudan du Sud, une violence insoutenable et inqualifiable. Selon l'UNICEF, au moins 129 enfants ont été tués en 3 semaines au mois de mai. Parmi ces victimes figurent 8 jeunes filles qui ont été violées avant d'être sauvagement tuées. Les rescapés de ces violences qui seraient produites dans l'état d'unité ont décrit des scènes effroyables comme ces garçons qui ont été castrés avant de les laisser mourir ensanglantés. L'UNICEF rappelle également la situation de ces gamins qui ont été attachés ensemble avant de se faire égorger, tandis que d'autres ont été jetés dans des édifices en flammes. Les enfants ont été enrôlés de force par les différents groupes armés. À en croire l'UNICEF, plus de 13 000 enfants sont forcés à participer au combat. Dans ces conditions, le directeur général de l'UNICEF plaide pour la fin de cette violence contre les innocents. Un appel au nom de l'humanité et de la décence la plus élémentaire, selon Anthony Lake. Cette détérioration de la situation sécuritaire sur place intervient alors que le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU note que 250 000 enfants sont au bord de la famine au Soudan du Sud. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Le secrétaire général se félicite de la publication ce jeudi par le Vatican d'une nouvelle encyclique papale intitulée Laudato Si ou Loué sois-tu en référence à une prière de Saint François d'Assise. Ce document appelle les 1,2 milliard de catholiques du monde à se joindre à la lutte contre les changements climatiques. Cette publication a été saluée par de nombreux chefs d'agence de l'ONU qui ont multiplié leurs appels pour la conclusion d'un accord climatique ambitieux et universel à Paris lors de la conférence des parties de la Convention cadre sur les changements climatiques. Les explications d'Isabelle Dupuis.
Dans une déclaration publiée aujourd'hui, Ban Ki-moon note que dans son encyclique, le pape François souligne que la question des changements climatiques est l'un des plus grands défis auxquels fait face l'humanité. Une question morale qui nécessite un dialogue respectueux avec toutes les composantes de la société. Le secrétaire général note aussi que ce document conclut qu'il existe un consensus scientifique très solide qui démontre que la majorité du réchauffement climatique de ces dernières années est principalement la conséquence de l'activité humaine. C'est un appel au courage et à l'unité, affirme de son côté la directrice exécutive de l'UNESCO, Irina Bokova, qui souligne que la durabilité ne doit pas se limiter à l'adoption de lois et de politiques vertes, mais appelle à se comporter différemment en tant que citoyen du monde. Appel relayé par le directeur exécutif du programme pour l'environnement, pour qui l'encyclique est un appel retentissant pour les peuples du monde. La science et la religion sont en accord sur cette question, affirme notamment Hakim Steiner. C'est maintenant qu'il faut agir.
Climat toujours, un nouvel ouvrage de la FAO, Changement climatique et les systèmes alimentaires, aborde la question des implications du changement climatique sur la sécurité alimentaire mondiale et le commerce. La nouvelle publication souligne également l'impact considérable du changement climatique sur la nutrition. Aziz El-Berri, économiste principal au siège de la FAO, explique le lien entre le changement climatique et la nutrition.
Le changement climatique affecte l'agriculture, principalement à travers l'eau. Et le changement climatique induit une transformation nutritionnelle des aliments, surtout les aliments de base, notamment le blé, le riz et autres. L'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère induit une diminution des éléments comme le zinc, le fer et les protéines, mais augmente l'amidon et les sucres, ce qui pourrait induire des effets néfastes sur la nutrition, surtout pour les populations rurales dans un grand nombre de pays sous-développés ou en développement, qui dépendent essentiellement de ces cultures de base.
Les commandants de toutes les forces de casque bleu que compte l'ONU sont au siège depuis le début de la semaine. Une rencontre annuelle qui est l'occasion pour eux de faire le point sur les défis rencontrés sur le terrain et de partager les meilleures pratiques, mais aussi d'envisager de nouveaux programmes pour améliorer encore le travail des casques bleus dans le monde. On écoute le commandant des forces de la mission onusienne pour la République centrafricaine, le général de division Martin Tchomu Tumenta.
Cette rencontre est une occasion qui permet à l'ensemble des commandants de forces de se rencontrer, partager leurs opinions et leurs expériences, aider la maison mère à développer de nouveaux programmes pour que les missions de maintien de la paix se conduisent de façon meilleure et que ces nouveaux programmes puissent être distribués à tous les pays contributeurs de troupes afin que les formations qui sont déployées au sein des missions de la paix aient, n'est-ce pas, beaucoup plus d'efficacité dans leur activité. C'est un nouveau programme qui s'adapte aux réalités actuelle du terrain, notamment des forces qui désormais, selon les résolutions, vont s'exécuter sous le chapitre 7. C'est qu'il faut que des forces, en suivant les règles d'engagement, puissent avoir une attitude assez robuste sur le terrain.
Vous écoutez un programme de la radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec le Soudan du Sud où la situation continue de se dégrader. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. Une grande partie sont des enfants, notamment dans l'état du Haut-Nil et celui de l'Unité. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires ont lancé des opérations d'urgence de livraison de kits de survie cette semaine. Le représentant de la FAO pour le pays, Serge Tissot, revient sur ces opérations.
L'opération de la distribution d'un kit de survie pour répondre aux besoins immédiats de la population. Dans ce kit de survie, on a regroupé les apports de différentes organisations. La FAO apporte des semences de légumes à croissance rapide, du matériel de pêche. Et on a les autres organisations qui apportent des tablettes de purification d'eau, des biscuits énergétiques, des mousquetaires et quelques accessoires de cuisine. Donc le tout doit faire au maximum 9 kilos par kit. Et nous avons distribué 4427 kits jusqu'à l'heure actuelle. Ça répond plus ou moins aux besoins de 27 000 personnes dans cette région dévastée. Ça permettra au moins à cette population de survivre pendant les quelques mois à venir, les mois où les régions seront inondées, et espérer avoir une assistance humanitaire plus traditionnelle une fois que la période de crise sera passée. Donc c'est vraiment un kit de survie à très brève échéance. On en charge environ 200 kits par hélicoptère. Donc vous voyez que les 4400 kits, le nombre de trajets par hélicoptère qui a déjà fallu effectuer.
Alors pourquoi justement les livrer par hélicoptère?
Parce que les routes sont totalement inaccessibles, dû au problème de sécurité, mais dû également au fait que ce sont des zones totalement inondables où on n'a pas accès par route à l'heure actuelle. Et également, ça nous permet d'accéder à des sites totalement reculés au milieu des marais. C'est une solution onéreuse, mais indispensable.
Alors, à quoi appellent la FAO et les autres agences à plus long terme?
C'est d'abord qu'on retrouve la paix au Sud-Soudan et que tout le monde puisse rentrer dans son village et reprendre les activités agricoles et pastorales traditionnelles. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Maintenant, il faut faire face à la situation réelle sur le terrain et souhaite assister ces personnes de la manière la plus humaine possible. La solution définitive est le rapatriement de tout le monde dans le village.
Est-ce que, étant donné la situation et de la violence et des routes dans l'état d'unité, est-ce que les humanitaires arrivent à avoir un contact avec les populations?
C'est compliqué d'avoir un contact. C'est-à-dire pour ça que l'on fait des livraisons par hélicoptère très rapides, parce que les humanitaires ont également dû quitter les lieux. Il y a, il ne reste pratiquement plus personne sur le terrain. Donc, on doit identifier les personnes au coup par rend compte que on travaille sur une zone qui est très grande, qui n'offre aucun accès, et en plus, la sécurité devient vraiment critique.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les dynamiques qui sont en route dans l'état d'unité, derrière le conflit?
Disons que là, on entre plus dans des problèmes d'ordre politique. L'offensive qui a lieu actuellement est une offensive qui vient du nord de l'état d'unité, de la région de Benfou, et qui se déplace vers le sud. C'est une offensive qui est organisée par le gouvernement et des groupes alliés au gouvernement. Et les populations qui sont chassées, ce sont des populations locales. Je ne crois pas que les personnes qui se retrouvent dans les marais soient réellement des combattants.
À l'avant-veille de la Journée mondiale pour les réfugiés, le commissariat de l'ONU pour les réfugiés vient de publier son nouveau rapport annuel. En 2014, le nombre de déplacés et de réfugiés suite aux multiples conflits dans le monde a atteint le niveau record de 60 millions de personnes. Chaque jour en 2014, 42 500 personnes sont devenues des réfugiés, des déplacés ou des demandeurs d'asile. Alpha Diallo.
Il s'agit d'un nouveau record du nombre de personnes déplacées par des conflits. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 59 millions de personnes sont déplacées. Les mouvements de population qui confirment une tendance à la hausse depuis 5 ans. Et l'an dernier n'a pas échappé à cette augmentation du nombre de personnes forcées à fuir les conflits. Chaque jour, en 2014, 42 000 personnes sont devenues des réfugiés, des déplacés internes ou des demandeurs d'asile. Antonio Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
A staggering acceleration.
Il y a une accélération saisissante du nombre de personnes forcés à fuir. Nous attendons un pic du nombre de déplacés et réfugiés pour la fin de l'année. Nous sommes donc les témoins d'un glissement incontrôlé vers une ère qui est désormais le théâtre de déplacements forcés sans précédent à travers le monde. Pourtant, nous n'avons pas les capacités et les ressources pour toutes ces victimes des conflits. Nous ne sommes plus capables de ramasser les morceaux.
Trois pays sont à l'origine du plus grand nombre de réfugiés, la Syrie 3,9 millions, l'Afghanistan 2,6 millions et la Somalie 1,1 million. Et par habitant, le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés, suivi de près par la Jordanie. Et à Amman, les réfugiés syriens sont parfois dans le dénouement total. Antonio Guterres.
86% des Syriens qui sont chez les communautés vivent au-dessous du niveau jordanien de pauvreté tel que défini par la Jordanie. C'est cette détérioration des conditions de vie qui naturellement mène beaucoup de gens à essayer de trouver des solutions un peu plus loin.
Car près de 9 réfugiés sur 10 se retrouvent dans des pays considérés comme économiquement moins développés. À cet égard, le Haut Commissaire regrette les restrictions à l'accueil des réfugiés.
Nous considérons que c'est extrêmement important que l'Europe non seulement facilite l'accès à ceux qui essaient de traverser la Méditerranée, mais qu'il n'y ait plus de forme légale pour les réfugiés d'arriver en Europe. Ça veut dire réinstallation et relocalisation, mais ça veut dire aussi politique de visa plus flexible, programme de réunification des familles et d'autres moyens pour permettre aux gens qui veulent accéder à la protection européenne d'entrer légalement dans le territoire européen et de ne pas souffrir les drames que nous constatons en Méditerranée.
Le HCR constate d'ailleurs une croissance spectaculaire du nombre de réfugiés et de migrants qui entreprennent des traversées périlleuses en mer, notamment en Méditerranée, dans le golfe d'Aden et en mer Rouge, ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Monsieur Guterres estime que le meilleur moyen de lutter contre les passeurs et autres trafiquants est de trouver les moyens légaux pour accueillir ces réfugiés.
Mais il faut faire attention. Combattre les passeurs et les trafiquants ne peut être fait que d'une façon qui protège entièrement la situation de leurs victimes, c'est-à-dire des réfugiés et d'autres migrants qui essaient d'arriver en Europe. C'est à mon avis évident que cette protection des victimes a des conséquences naturelles sur la nature des opérations qui puissent être menées, parce que c'est notre priorité absolue. Sauver des vies, protéger les victimes.
La HCR dénombre ces 5 dernières années au moins 14 conflits qui ont éclaté ou repris. Il s'agit de 8 en Afrique, Côte d'Ivoire, République centrafricaine, Libye, Mali, nord du Nigeria, République démocratique du Congo, Soudan du Sud et cette année le Burundi. Syrie, Irak et Yémen sont les 3 conflits meurtriers du Moyen-Orient. Reste la guerre civile en Ukraine, dans le continent européen, Kyrgyzstan, ainsi que plusieurs régions du Myanmar et du Pakistan complètent ce tableau en Asie.
Et c'est avec une pensée pour les 60 millions de personnes déracinées dans notre monde que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.